Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents en nombre. Merci Anne-Lise, merci beaucoup Anne-Lise pour cette introduction. Merci aussi à Jessica et Anne-Lise pour leur invitation à venir. Moi, c'est pas du tout une corvée. Alors, ma famille pourrait avoir accès à cet enregistrement à un moment ou à un autre, donc je vais pas dire que c'est une réjouissance complète, mais c'est un plaisir de venir pendant un mois parmi vous. Et ça fait vraiment, je conseille à tout le monde. Ça fait qu'une semaine, donc je suis encore dans l'enthousiasme des débuts, mais je conseille à tout le monde de faire ce genre de séjour parce que ça permet d'avoir une nouvelle perspective et notamment de faire des présentations qui sont des présentations de synthèse qu'on a fait. Moi, c'est la première fois que je me plie à cet exercice de faire une présentation où j'essaye de synthétiser globalement ce qu'on veut faire dans notre groupe de recherche et de mettre ensemble des travaux. Donc, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à m'écouter que moi j'ai pris à le faire. Mais en tout cas, c'était une très belle opportunité de réfléchir à mettre de la cohérence dans un ensemble de travaux qui sont les personnes gentilles diraient éclectiques, les personnes un peu désagréables diraient complètement disparates. Donc, on verra si j'arrive à mettre de la cohérence. Je suis parti. Ben, moi, je viens du champ de la neuropsychologie, des neurosciences, et donc j'ai essayé de faire une introduction parce que je ne sais pas encore une fois qui est dans la salle. Enfin, je sais plus ou moins, mais il y a des gens de différentes approches, et donc j'essaie de repartir sur la logique qu'on a essayé de développer, qui est une logique qui part finalement des limites des neurosciences, des addictions actuelles. Donc, je vais partir sur ces espoirs et des illusions des neurosciences. Je prends les questions, on a 2 heures, donc c'est la fête, mais n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions. Je prends les questions pendant, je prends les questions après, mais s'il y a quelque chose qui vous échappe ou qui vous semble pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation. Sur base de ces limites inhérentes aux neurosciences actuelles, je vais ensuite partir sur le développement de l'idée de la neuropsychologie intégrative, qui est un concept que je voudrais défendre et qui, je pense, synthétise ou est un bon témoin de l'ensemble de nos travaux. Et puis, je vais essayer de montrer comment cette neuropsychologie intégrative permet de répondre, ou en tout cas d'adresser des questions qui ne sont pas adressées par les modèles classiques de neurosciences. Et je vous présenterai 4 illustrations sur base de nos travaux. Je reviendrai sur ces 4 aspects en détail par après. Mais donc, l'idée générale, ce sera comment la neuropsychologie, en liant la psychologie et la psychologie clinique et les neurosciences, permet de répondre à des questions qui sont, à mon sens, pas assez abordées dans les modèles de neurosciences. Et puis je terminerai en quelques slides sur finalement une synthèse très modestement, de ce qu'on peut faire pour ouvrir un nouveau dialogue entre les neurosciences et la psychologie clinique. Donc pour commencer, espoir et désillusion des neurosciences, ben, je pense que l'ensemble des personnes dans cette salle connaissent l'idée de la Brain Disease Model, cette idée qui a émergé dans les années 90 de l'addiction, des addictions comme une maladie du cerveau. Et donc sur base de la découverte, ça c'est les années 50, du système de la récompense sous-corticale, et puis de l'évolution des neurosciences, on en est arrivé à cet article Prinkeps d'Alan Leshner, qui est le moustachu le plus célèbre des neurosciences, et qui nous dit globalement, les addictions, c'est d'abord et avant tout une maladie du cerveau. Et on doit comprendre les addictions comme une maladie du cerveau, une maladie basée sur la rechute et la chronicité. Au même titre, pour vous montrer que c'est pas juste, enfin, c'est vraiment un dogme, au même titre que les maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est pas moi qui ai inventé ce schéma. C'est un schéma des défenseurs de cette approche. Globalement, le cerveau dysfonctionne dans les addictions comme le cœur dysfonctionne dans les problèmes cardiovasculaires. Donc, c'est vraiment une vision très forte de neurosciences et c'est une vision qui n'est plus du tout minoritaire, qui est même largement majoritaire et qui est devenue une sorte, comme j'essaie de le dire, de dogme. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant de ces approches, je vais rapidement résumer ces modèles. On peut dire, alors les neuroscientifiques des addictions vont certainement me jeter des objets à ce moment, mais c'est juste pour illustrer globalement l'idée. Les modèles actuels sont des modèles qui vont partir de l'idée que les addictions sont basées sur un déséquilibre entre 2 systèmes. C'est des modèles dual process qu'on voit dans d'autres aspects, dans d'autres champs de la psychologie, mais globalement, on aurait 2 systèmes, un système d'impulsion, un système sous-cortical qui va initier l'action dans nos comportements, et un système de contrôle qui va réguler cette action, avec le système de contrôle qui est plus basé sur des régions frontales et préfrontales. C'est, pour les psychologues cognitivistes, l'opposition classique entre système 1 qui est rapide, automatique, non conscient, même si ça peut être discuté, et le système 2 qui est plus lent, plus réfléchi, plus exécutif, plus contrôlé. Nos comportements sont basés sur l'équilibre entre ces 2 systèmes, et les addictions dans ces modèles neuroscientifiques sont fondées sur un déséquilibre qui est lié à une augmentation d'activité du système d'impulsion. Le système de récompense est plus sensible, devient hypersensible aux stimulations liées à la substance. On est plus attiré par la substance, on en a plus envie, et à une réduction des capacités frontales d'inhibition. Donc à la fois un addict, selon ces modèles, c'est quelqu'un qui est à la fois plus attiré par la substance, hyperactivation du système de la récompense, et qui est moins capable de contrôler ses comportements à cause de déficits frontaux et préfrontaux. Si on veut aller plus loin, le modèle qui me semble dominant dans les neurosciences sexuelles, c'est le modèle développé par Nora Volkoff et Georges Coombe, qui part sur trois systèmes, donc qui reprend cette idée d'un système des ganglions de la base, mais plus globalement du système de la récompense qui va initier l'action, et un système préfrontal qui va être sous-efficace, et puis il rajoute un système amygdalien avec l'idée d'une évolution dans l'addiction. Pour dire simplement, on commence à consommer sur un mode d'intoxication, on a une activation du système de la récompense, puisque quand on commence une drogue, je vais me centrer sur l'alcool, mais ça marche pour les autres drogues. Quand on commence à consommer une drogue, on a du renforcement positif, on a des effets positifs de cette drogue, c'est la phase positive de binge. Et puis, par habituation et différents mécanismes cérébraux, on va passer à une phase de renforcement négatif où on va avoir du manque et on va plus consommer pour avoir les effets positifs, mais pour réduire les effets négatifs. C'est la transition entre la consommation renforcement positif et renforcement négatif. Et puis, il y a le système préfrontal et frontal qui va aussi, lui, être pris en otage par cette substance. Ces modèles, et c'est un résumé évidemment bref, mais ces modèles ont des postulats qui sont très forts. Le premier postulat, et a priori, je pense que tout le monde peut tomber d'accord là-dessus, l'addiction induit des changements cérébraux. Je pense qu'il y a peu de gens qui considèrent que ce n'est pas le cas. Mais il y a deux autres postulats, à mon sens, qui sont souvent implicites, mais qui sont réels. Ces changements sont chroniques. La brain disease considère que le cerveau va avoir des changements qui sont chroniques, stables et durables, voire non modifiables dans le temps. Et puis, ces changements, et c'est peut-être le postulat le plus fort, sont la cause centrale et souvent unique. Il faut vraiment aller voir les travaux, les articles de Nora Volkoff, par exemple, de Georges Coupe. C'est des gens qui sont qui font des affirmations très, très fortes sur le fait que tout est dans le cerveau. Et c'est le fonctionnement cérébral qui est la seule, l'alpha et l'oméga, de ce qu'on a étudié dans les addictions. Donc ces changements cérébraux sont la cause centrale, voire unique, de l'essor et du maintien du trouble. Il y a évidemment des bases cérébrales et des arguments favorables à ces modèles de neurosciences, et ils ont permis des avancées qui sont difficilement déniables. Évidemment, une meilleure connaissance des processus cérébraux sous-jacents aux addictions, mais aussi l'idée que la neuroimagerie ou les neurosciences peuvent être utilisées comme outils prédictifs, par exemple de l'abstinence à court terme. Les modifications cérébrales prédisent la capacité à rester abstinent sur le court terme et à éviter la rechute sur le long terme. C'est aussi, de manière plus psychologique peut-être, un outil de déstigmatisation des patients, puisqu'on passe d'une idée ou d'un modèle où les patients, modèle psychologique classique, où les patients sont responsables dans une certaine mesure de leur addiction, en tout cas responsable du maintien d'addiction, motivation, déni, volonté, etc., à un modèle finalement médical où on n'est pas responsable de son addiction, puisque l'addiction est une maladie du cerveau, au même titre qu'on n'est pas centralement responsable de ces maladies cardiovasculaires, pulmonaires ou rénales qui nous arrivent. Le problème de ces modèles, c'est que très tôt, ou très rapidement, ou dans les 20 dernières années, on a eu tout un champ de chercheurs qui ont critiqué ce modèle de brain disease. Derek Haim a été un des premiers à insister là-dessus, avec un argument qui est assez facile à comprendre, qui est de se dire, les addictions, c'est de la biologie, évidemment, là, ce sont des changements cérébraux, on ne le nie pas, mais c'est aussi des difficultés sociales, des difficultés psychologiques qui sont complètement ignorées par les modèles de neurosciences. Ce qu'il dit, il le dit pas très différent de ce que je viens de dire, c'est-à-dire, on ne peut pas, tout n'est pas dans le cerveau, ce n'est pas simplement un dysfonctionnement cérébral, c'est aussi des aspects, comme je disais, psychologiques, biologiques, mais aussi psychologiques, politiques ou environnementaux. Et puis, il y a eu un développement de critiques plus étayées. Et là, je vous fais une synthèse rapide, mais donc, globalement, les critiques qui sont les plus massives sur ce modèle de brain disease, c'est que c'est surtout des données neurobiologiques et la plupart du temps animales, avec des implications limitées chez l'homme. C'est qu'il n'y a pas d'output clinique majeur, et ça, c'est difficile à nier. On ne peut pas dire que la prise en charge des patients actuellement soit largement influencée par les neurosciences et ait été améliorée par les évolutions des neurosciences. On n'a pas de solutions médicamenteuses ou de neurostimulation ou autres qui sont massivement efficaces. Il n'y a pas de prise en compte de l'hétérogénéité. Typiquement, L'un des postulats du brain disease, c'est que la maladie est chronique. Donc, si on a une addiction et qu'on n'est pas traité, eh bien, ça va s'aggraver progressivement et on va pas, c'est impossible de s'en sortir seul. Or, on voit en clinique que dans beaucoup d'addictions, que ce soit des addictions comportementales ou aux substances, il y a une variation dans l'addiction naturelle et certaines personnes sortent de l'addiction de manière indépendante et sans traitement, en tout cas sans traitement cérébral. Et puis, il y a une déresponsabilisation du patient. Évidemment, la déstigmatisation a son revers, c'est-à-dire qu'on enlève au patient, ça devient, le patient devient un objet passif de la prise en charge, puisqu'il a une maladie cérébrale et on laisse les médecins ou les neuroscientifiques s'occuper de son cerveau. Il n'y a plus de prise en charge où le patient a son mot à dire ou est actif. Et puis, peut-être la plus grande frustration des non-neuroscientifiques par rapport à ces modèles de neurosciences, c'est que ces modèles monopolisent, particulièrement aux États-Unis, mais on voit aussi arriver en Europe, monopolisent la plupart des fonds de recherche. 80-90% des budgets du NIAAA, donc l'agence qui gère la recherche sur l'alcool aux États-Unis, est consacrée à des recherches en neurosciences et pour une majorité en neurosciences sur des modèles animaux. Bref, on en est là. Avec des débats et des insultes, et il faut vraiment aller voir les réponses aux réponses et les opinion papers, c'est assez amusant, parce que, surtout quand on est extérieur au champ, on voit que c'est des bagarres avec des gens qui font des assertions qui sont très fortes, mais à l'inverse du brain disease. Un réseau, par exemple, européen qui s'est fondé pour lutter, de chercheurs européens qui s'est fondé pour lutter contre cette omniprésence du brain disease, et puis des gens qui essayent de tirer leur épingle du jeu, comme Marcus Heilig, qui vient des neurosciences, mais qui essaie de trouver une position intermédiaire, qui n'est pas finalement très loin de ce que je vais tenter de vous présenter, en disant est-ce qu'on peut se dire que c'est une maladie du cerveau, mais pas qu'une maladie du cerveau, et essayer d'explorer les liens. Et puis à nous, on est là au milieu, et on se dit, mais moi j'ai rien à dire sur ces débats, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer les interactions, et le fonctionnement, et les avancées, et aussi les outputs cliniques. La piste de solution que je vais vous proposer, c'est une approche de neuropsychologie intégrative avec l'idée qu'on part de positions qui sont assez figées. Je pense que les gens qui sont dans ce débat et qui ont choisi leur camp ne se parlent plus ou se ne parlent qu'en s'invectivant. Et donc, il n'y a plus à mon sens, dans la littérature récente, il n'y a pas vraiment d'interactions qui sont très positives ou constructives. Et donc, l'alternative possible, à mon sens, c'est de prendre acte des données cérébrales et de se dire qu'il y a des choses à faire avec ça, mais aussi de se dire qu'on peut les rapprocher et en fait qu'il y a une troisième voie médiane qui permet de rapprocher les variables psychologiques, sociales ou environnementales de ces données cérébrales. Et c'est ce que je veux défendre avec la neuropsychologie intégrative, avec cette idée qu'on est sur une ligne de crête entre les neurosciences et la neurologie d'un côté et la psychiatrie, la psychologie clinique de l'autre. La neuropsychologie intégrative, c'est un concept qui a été développé par Marcel van der Linden, qu'il a développé dans le champ de la neuropsychologie clinique ou appliquée, mais qui me semble, et j'espère ne pas trahir son approche et sa mémoire par la même occasion, mais donc qui est une approche où on va se dire, nous sommes des neuropsychologues, donc on ne nie pas le fait qu'on est neuropsychologue et qu'on a des bases de neurosciences, mais qui veut intégrer, et pas phagocyter, mais intégrer dans cette approche de neurosciences d'autres facteurs que des facteurs purement cérébraux, et notamment pour ce qui me concerne, puisque je suis psychologue, les aspects de psychologie des émotions, de psychologie cognitive, sociale ou du développement, et les appliquer à une population psychiatrique et donc appelé à des concepts de psychiatrie, de psychopathologie expérimentale ou de psychologie clinique. L'heure qui suit va être consacrée à essayer de vous montrer, ou je ne vais pas dire vous convaincre, on verra à la fin, mais en tout cas illustrer cette approche de neuropsychologie intégrative sur base de nos travaux et nos travaux de recherche, donc menés dans le laboratoire de psychopathologie expérimentale à l'UCL Louvain, va lier trois aspects centraux. On se centre surtout sur les troubles de l'usage d'alcool, et donc je pense que beaucoup des choses que je vais dire peuvent être étendues aux addictions aux substances, et même dans une certaine mesure aux addictions sans substances, et on pourra en discuter par après, mais mon champ de recherche est centralement les troubles de l'usage d'alcool, avec des méthodes de neuropsychologie, de neurosciences et de psychopathologie. Donc vous allez avoir dans l'heure qui suit des études en eye tracking, en EEG et en neuroimagerie, qui sont ce qu'on fait usuellement, et pour explorer surtout les thématiques de cognition, et de cognition sociale. Donc tout ce que je vais vous raconter, c'est une volonté d'illustrer l'approche de neuropsychologie intégrative dont je ne suis pas le représentant ou le plus éminent membre, mais de montrer comment cette neuropsychologie intégrative peut être utile pour d'abord tester la validité comportementale des modèles neuroscientifiques, donc faire cette transition entre les données cérébrales et ce qui se passe réellement dans le comportement des patients pour explorer des processus qui sont ignorés par ces modèles, parce que, comme vous le verrez, on a le sentiment que ces modèles, et notamment parce qu'ils viennent des modèles animaux, sont très centrés sur ce déséquilibre que je vous ai expliqué entre un système frontal et un système limbique de récompense, et ignorent d'autres capacités, peut-être plus propres à l'être humain, et les corrélats cérébraux de ces activités. Déterminer aussi les interactions entre systèmes cérébraux, parce que si on regarde la littérature actuelle, on voit que on a beaucoup d'études sur ce système de la récompense, beaucoup d'études sur le système frontal, mais l'hypothèse est qu'il y a un lien entre ces systèmes et il est très peu exploré ou développé dans ces modèles. Et puis finalement, je terminerai par une branche de recherche plus récente qu'on a développée sur l'idée de sortir de ce focus sur le cerveau et de s'intéresser au lien entre le fonctionnement cérébral et le corps et les inputs corporels, notamment dans les troubles de l'usage d'alcool. Donc, pour éviter de vous parler méthodo à chaque fois, dites-vous que l'ensemble des études que je vais vous présenter, sauf exception que je mentionnerai, sont basées sur une comparaison, quelle que soit la technique, sur une comparaison de groupe où on sélectionne entre 30 et 50 patients qui sont diagnostiqués avec un trouble sévère de l'usage d'alcool, donc TSUA, trouble sévère de l'usage d'alcool, qui est l'autre terme pour alcoolisme ou dépendance à l'alcool. Ils sont récemment abstinents, donc c'est la population classique. Ils consomment pendant des décennies, ils sont sevrés, désintoxiqués. Et puis, après 10 à 15 jours d'abstinence, c'est là qu'on fait les études pour éviter l'influence de l'alcoolisation aiguë et aussi du traitement médicamenteux du début de sevrage. Et puis, on les sélectionne et c'est un biais pour qu'il n'y ait pas de comorbidité addictologique ou psychiatrique. Les psychologues cliniciens dans la salle pourront me dire à juste titre qu'on sélectionne une sous-population qui est très spécifique, parce que trouver quelqu'un qui ne boit que de l'alcool et qui est uniquement dépendant à l'alcool est assez rare, mais on veut séparer les variables dans nos études. Et donc, comme dans l'ensemble de des études dans le domaine, on sélectionne une sous-population qui a peu de troubles anxieux, peu de troubles dépressifs et qui n'a pas de comorbidité avec d'autres substances à l'exclusion du tabac. Et puis, on les compare, que ce soit comportementalement ou au niveau cérébral, avec un groupe de contrôle sain à parier, qui boit peu, qui n'a pas d'histoire psychiatrique et neurologique, et on les a parié la plupart du temps sur l'âge, le genre et le niveau d'éducation. Donc là, vous avez la méthodologie générale, et l'ensemble des études que je vais vous présenter sont basées sur cette comparaison.